Guillaume Meurice me donne rendez-vous au chouette hôtel à Rennes, rue du Pont des Loges. Quand j'arrive dans le décor cosy du bar, il termine une interview avec un étudiant de Rennes 2.
Hop là.
Je vais te prendre un café s'il te plaît.
Le temps d'aller chercher un autre café et on s'installe sur la terrasse à l'extérieur. La discussion commence.
Allons-y, parlons sérieusement. C'est ma spécialité.
Apparemment, ça fait un an et demi que tu es installé à Rennes.
Tout à fait, monsieur. Bien renseigné.
Qu'est-ce que tu penses de cette ville?
Ah, c'est une vaste question, ça. Bah, moi, j'aime bien parce que c'est ce qu'on appelle une ville à taille humaine, où tu peux connaître tes voisins, où tu peux connaître les gens de ton quartier, ce qui n'était pas trop possible à Paris. Et puis que c'est une ville riche. Culturellement, il se passe toujours des trucs. Il y a des bars un peu partout à proximité qui sont très sympas. Et il y a de la campagne aussi pas loin. Alors qu'on peut se barrer assez rapidement, faire des balades en forêt ou au bord de la mer. Donc c'est vraiment l'idéal. Mais je veux pas trop dire que c'est idéal, sinon ça va faire rameuter tout le monde. Déjà que moi je suis un peu responsable de l'augmentation du prix des loyers. Pardon. Je veux pas non plus que ça devienne n'importe quoi. Donc faut quand même savoir que c'est une ville pourrie. Voilà, ça tu garderas juste ça. Ça m'en horrible. Nul, ne venez pas.
Beaucoup de punks à chiens.
La capitale internationale des punks à chiens, bien sûr. Vraie tradition.
Et tu vas dans quel genre de bar à Rennes?
Bah ici, par exemple. Bah non, mais les hiboux, c'est vrai que j'aime bien. J'aime parce que c'est sympa, les gens sont sympas, c'est assez détente et chill. Il y a l'Alaska qui est juste à côté. C'est vraiment, on reste sur le même secteur.
T'as exploré qu'une seule rue de Rennes, en fait.
Ouais, c'est ça. Je fais rue par rue. Parce que je suis assez peu souvent à Rennes, parce que je suis toujours en vadrouille. Donc je connais encore pas suffisamment bien, c'est vrai.
Est-ce que tu connaissais Radio Syllabe?
Je connaissais deux noms, de réputation, mais je savais pas l'écrire, donc ça commençait mal. Je l'ai écrit comme une syllabe de mots.
Et maintenant, tu sais comment l'écrire?
Voilà, il y a un tiret, mais en fait, il n'y a pas de tiret. Il y a un tiret, mais que sur Internet.
Syllabe, c'est une radio associative, une de celles qui pourrait peut-être perdre beaucoup, beaucoup de budget dans le cadre du nouveau projet de loi de finances.
Ouais.
Merci Rachida.
Merci.
Est-ce que toi qui as fait une bonne partie de ta carrière dans la radio,
ouais,
tu recommanderais la radio à des gens qui cherchent un loisir, un engagement associatif ou à en faire leur métier?
Bah oui, moi c'est un de mes médias préférés. Bah là tu prêches, ouais, un gros gros convaincu. Bah j'ai l'impression, de l'expérience que j'ai, hein, que c'est beaucoup plus libre que la télévision, que c'est beaucoup plus accessible techniquement. Il n'y a pas besoin de maquillage, il n'y a pas besoin de la preuve. Il n'y a pas besoin de caméra, etc., etc. C'est plus libre dans le format et que c'est plus libre dans ce qu'on peut y dire. Et paradoxalement aussi, c'est plus intime. C'est-à-dire que tu vas toucher l'ouïe, tu vas toucher l'audition, qui a un sens un peu plus intime, un peu plus sensible que les autres sens. Enfin, ça nous aide souvent à nous concentrer, la radio, quand on écoute un podcast. Quand on écoute quelqu'un parler à la radio, on est un peu plus focus que quand il y a des choses qui nous attirent les yeux sur un écran, etc., etc. Donc ouais, je trouve que c'est un bon outil. Et je pense que ce n'est pas un outil qui va disparaître. C'est comme le théâtre. Au début du cinéma, les gens disaient « Oh mon Dieu, le théâtre va disparaître ». Mais non, tu ne vas pas chercher la même chose au cinéma que tu vas chercher au théâtre. Et la radio, c'est pareil. Comme ça ne touche pas les mêmes sens que les autres médias, que tu ne vas pas y chercher la même chose, j'ai l'impression que ça ne mourra pas. Ça se réinventera, le podcast, c'est une réinvention de la radio. Maintenant, on dit du podcast, mais c'est de la radio.
Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton exercice personnel de la radio?
Bah, moi, là, j'aime bien arriver autour d'une table dans un studio où là, on fait l'émission en public, donc c'est un théâtre, me poser devant des micros et me marrer avec des potes en essayant de faire marrer les gens. Donc vraiment, ce que je recherche dans la radio, c'est la simplicité. Le côté simple de l'outil me plaît énormément, mais la preuve, tu vois, là, t'es arrivé, t'as un petit zoom, t'enregistres et c'est bon, quoi, on peut discuter. Il n'y a pas besoin d'installer des gros trucs, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il y a juste à regarder si t'as bien appuyé sur le bouton. Oui, ouais, c'est bon, voilà, impeccable. Une fois que c'est lancé, c'est bon. Donc c'est un outil un peu magique. Puis moi, après, j'ai un rapport à ça un peu de l'enfance. Il y avait toujours un poste allumé chez mes parents. J'avais pas la télé quand j'étais gosse, par exemple. Mes parents écoutaient la radio, écoutaient beaucoup France Inter, le téléphone sonne, etc., le jeu des 1000 francs. C'était des francs à l'époque. Et oui. Et donc j'ai un rapport aussi à ça, sûrement un peu affectif à la radio.
C'est marrant parce que tu as fait un parallèle avec le théâtre. Et aujourd'hui, tu te retrouves à faire ton émission, la dernière, sur Nova, dans un théâtre.
Oui. Ouais, parce que j'aimais le rapport au public. Je voulais, comme je voulais que ce soit une émission drôle, je voulais qu'on entende des gens rire autres que les personnes qui sont autour de la table. Et comme c'est une émission aussi de transmission, je voulais faire quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation populaire, où on fait venir à chaque fois quelqu'un d'intéressant qui nous explique un truc, qui nous aide à comprendre mieux l'époque, l'actu, etc. comme il y avait cette idée de transmettre, bah, je voulais aussi que ça se transmette, mais pas seulement entre nous, mais aussi que ça puisse s'ouvrir à un public. Puis ça nous oblige, nous, à avoir une autre énergie. Quand tu parles à 300 personnes, c'est pas la même chose que quand tu parles à 5 personnes autour d'une table. Même le dispositif scénique, c'est pas le même que dans un studio de radio. On n'est pas dans une table fermée, on a une table ouverte sur les gens. Donc c'est tout ça qui m'intéressait. Ouais, et puis comme moi je viens du théâtre, j'ai fait des cours de théâtre, etc. J'ai fait du one man show pendant longtemps, puis je fais encore des spectacles. C'est vrai que c'est un rapport que j'apprécie beaucoup. On n'a rien inventé, évidemment, mais moi j'écoutais quand j'étais gosse les émissions de Ruquier, c'était déjà en public, c'était au studio 106, je crois, à la maison de la radio. Le tribunal des flagrants délires, je crois que c'était en public aussi. Enfin bon, c'est pas. Voilà.
Je me disais que pour cet entretien, il y aurait peut-être une ou deux pauses musicales. Donc, si tu veux, tu peux être le programmateur musical de cet entretien.
Vous allez le regretter. L'audience va vraiment baisser considérablement.
Retour en force de l'ordre moral. Je veux surtout pas te casser ton moral. Mais c'est le bordel, t'entends pas dans leur panel.
Je suis formé.
Ça nique le CSA. C'est pour ça que j'ai gardé ma tenue de combat, que je lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège tes abdos. Si tu partages de leur vie, ils te feront pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée. Qu'on présente pas assez la France du passé. C'est carré, on veut nous stopper, ça allait. Tant qu'on rappait dans les MJC. Mais aujourd'hui le phénomène a grandi. Je merci, je remercie les jeunes qui rappent sans merci. Et puis nique ça merci, on passe pas dans leur radio. On fera le tour, c'est pas grave. Le plus dur c'était de sortir de la cave. Et les gens le savent.
NTM, on est encore là, 1998. Parlons plus précisément d'humour à la radio. En tant qu'humoriste, tu as fait du théâtre,
ouais.
Tu as dû faire de la comédie,
ouais.
Tu as écrit des livres, tu as fait des one-man shows. Est-ce que tu trouves que faire de l'humour à la radio, c'est différent de tout ça ?
Bah, y a d'autres contraintes, ouais. C'est déjà le temps est limité. Quand tu fais une chronique, c'est souvent 3-4 minutes. Tu dois choper un autre tempo, tu dois être, je mets des guillemets aussi, mais plus efficace. Ça a l'air dans un spectacle, t'as un peu plus le temps de t'installer, les gens sont venus pour te voir pendant 1h30, 1h40. Alors que dans une chronique radio, souvent il va se passer des trucs avant, il va se passer des trucs après. Il faut que tu installes tout de suite ta thématique, ton style. Alors ça change un peu quand tu es habitué à la radio. Par exemple, si je prends un exemple, Aymeric Lomprey, maintenant les gens le connaissent bien, donc ils connaissent bien son style, ils connaissent bien son clown, ses gimmicks, tu vois, j'ai rien entendu, etc. Donc les gens s'amusent à jouer avec lui, plus qu'ils ne le regardent jouer. Bon, c'est hyper intéressant, je trouve. Et sur scène, oui, sur scène, tu peux te permettre d'improviser, tu peux te permettre de prendre en compte ce qui se passe dans la salle, si quelqu'un se casse la gueule ou part au milieu du spectacle. Donc quand même la scène, c'est vraiment pour moi c'est l'espace de liberté vraiment absolue.
Donc l'humour à la radio serait plus formaté ?
Ouais, t'es plus formaté forcément. Le format te contraint forcément à t'adapter. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins intéressant. Hein. Souvent on dit que les contraintes sont indispensables à la création artistique, moi je suis assez d'accord.
Pour parler de ton humour...
Oula.
T'as décidé d'être dans un registre politique ?
Ouais, j'ai pas vraiment décidé, hein. c'est ça qui me plaît. Chaque humoriste fait avec ce qui le motive, quoi, ce qui l'obsède ou ce qui l'angoisse.
Il y a sans doute plein d'autres choses qui te font marrer, alors pourquoi écrire principalement là-dessus ?
Bon, parce que ça m'énerve. C'est une manière d'apaiser ta colère, quoi. Sinon tu irais cramer des trucs, c'est pas légal, bon, c'est compliqué. C'est une manière déjà de transposer toi ce que tu ressens. Moi j'ai toujours été comme ça aussi, c'est une nature. Quand j'étais gamin, j'étais déjà un peu comme ça. Et puis après, d'essayer d'en faire quelque chose, si tu réussis à faire marrer les gens avec ça, potentiellement, peut-être tu peux leur faire prendre conscience d'un truc. C'est ça qui fait la spécificité de l'espèce humaine, c'est de partager des choses, de créer des liens entre nous. Donc c'est un peu ça que j'essaie de faire en faisant des blagues.
Pourtant, créer du lien sur des sujets clivants, c'est pas évident.
Oui, parce que mon but, c'est pas de rassembler tout le monde. J'entends beaucoup de trucs. J'ai entendu beaucoup de trucs avec cette polémique, etc.
Mais quelle polémique ?
Il y a eu une polémique, il paraît, sur une blague que j'aurais faite. Des gens disaient, c'est pas drôle, parce que l'humour, ça doit fédérer. Déjà, je sais pas si ça doit fédérer. Mais en plus, fédérer, ça veut pas dire tout le monde. Tu peux fédérer un groupe de résistants, tu peux fédérer un groupe de...
Il y a quelques semaines, tu étais l'invité d'une soirée du Club de la Presse de Bretagne sur le thème du micro-trottoir. Tu avais dit à ce moment-là que tu aurais aimé appeler cette soirée « la blague dans la plaie ». Tu peux nous expliquer cette expression ?
Parce que c'est une citation d'Albert Londres, qui a dit que... Lui, il parlait du métier de journaliste, qui disait que c'était pas de faire plaisir ni de faire du tort, mais de porter la plume dans la plaie. Et bon, c'est une expression que je m'amuse à reprendre, en disant « porter la blague dans la plaie ». Mais ça a un peu de sens, finalement, au-delà de la petite blagounette. C'est que l'idée, c'est de pointer du doigt une situation que tu juges anormale. Bon, souvent, moi, ce qui m'interpelle, c'est les rapports de domination. Donc, quand je vois des gens écraser d'autres gens pour soit zéro raison, soit des questions de religion, de pognon, de pouvoir, etc., je trouve ça intéressant de pointer du doigt ce dysfonctionnement, ce que j'estime être un dysfonctionnement. Donc de porter la blague dans cette plaie-là, qui pour moi c'est une plaie dans la société, les rapports hiérarchiques, etc. Les rapports de domination, pour moi c'est vraiment ce qui cause le plus de tort, la compétition. Enfin, je ne peux pas te faire la liste, mais donc ce qui m'intéresse c'est de placer la blague à cet endroit-là.
Si on reprend le parallèle avec le journalisme, toi avec tes blagues tu serais un genre de lanceur d'alerte ?
Non, je n'irai pas jusque-là parce que je ne crois pas que j'ai déjà alerté sur quoi que ce soit, mais je peux être un relais, on peut être un relais. D'un vrai travail journalistique, par exemple, on fait des blagues. Il y a Walidia là, c'est un bon exemple parce que il vient d'être embauché sur Mediapart et il fait des chroniques. Et lui, il dit, je me sers des enquêtes de Mediapart pour mes blagues. Donc ça peut être un relais. L'humour, ça peut être un relais d'une réalité. Et Albert Londres, quand il parle de ça, il parle de porter la plume dans la plaie, c'est-à-dire essayer d'être le plus lucide possible sur et essayer de décrire le réel de la manière la plus efficace possible, la plus vrai possible, chercher sa vérité. Évidemment, c'est toujours subjectif, mais quand même, je crois que la tentative qu'il a quand il dit ça, il dit, je fais pas ça pour faire du bien ou pour faire du mal, en gros. Je dis ça pour aller voir ce qui se passe véritablement, aller au cœur de la vérité. Et l'humour, en vrai, ça peut servir à ça, je pense, un peu.
Je reviens sur cette idée de plaie, parce que l'humour peut aussi blesser. Dans la dernière, par exemple, il y a des gens qui en prennent sérieusement pour leur grade. Je pense aux policiers ou aux chasseurs, dernièrement. Alors, selon toi, quelle est la nuance entre attaquer, insulter et exprimer une opinion politique ?
La nuance, c'est surtout l'intention, c'est pourquoi tu fais les choses. Là, en l'occurrence, les policiers et les chasseurs, c'est plutôt des gens qui sont en rapport de dominant, par rapport à des cueilleurs de champignons, par exemple, ou par rapport à des manifestants. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait, c'est de s'attaquer au rapport de domination en ciblant plutôt les dominants que les dominés. Parce que tous les gens, tous les réacs qui disent « on ne peut plus rien dire », ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est « on ne peut plus faire de l'humour sur les dominés ». Ce qu'ils ont pratiqué pendant des années et des années. en faisant de l'humour raciste, sexiste, homophobe, etc., etc. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le contraire. L'intention qu'on a, c'est de dire il y a quand même des gens qui nous écrasent et qui nous oppressent, et c'est quand même le problème, c'est quand même plus ces gens-là que ce que les autres appellent la dictature des minorités, qui n'a jamais existé. En fait, il n'y a jamais eu de dictature des minorités.
Alors, dans ton exercice de l'humour, il y a cette envie d'inverser les rapports de force ?
Mais je crois pas qu'on arrive à les inverser, mais peut-être pendant un temps, on peut réussir à les à un peu égaliser le tout. C'est pour ça que quand on faisait les chroniques avec Charline devant des ministres, on les tutoyait. Enfin, pendant 2 minutes 30, on n'inversait pas le rapport de domination, parce qu'ils étaient toujours ministres. C'est eux qui avaient le pouvoir, la preuve, ils ont fini par me virer, donc au final, j'ai rien inversé du tout. Mais je me dis pendant un temps, ah ouais, c'est un humain avec un humain. C'est un humain face à un humain. C'est pas un ministre face à un mec en situation de précarité. Ça me plaisait que ça soit ça qui se joue. Ça désacralise en fait l'humour. Ça, c'est ça qui me plaît beaucoup.
Par rapport à cette idée d'exprimer ses opinions, est-ce que tu considères que La Dernière est une émission d'opinion ?
Ouais, bien sûr, bah, on exprime des opinions. Après, c'est pas la ligne éditoriale de Nova. Nova n'a pas une ligne éditoriale marquée politiquement. C'est plutôt une radio musicale à la base, donc voilà. Mais nous, dans notre émission, on assume de donner notre avis. Et moi, j'assume assez clairement le fait que c'est que mon avis et que je suis hyper chaud qu'on soit pas d'accord avec moi. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Je cherche à convaincre personne. C'est juste mon opinion et sur un fait de société, on va dire, mon point de vue que j'exprime avec mes petits outils qui sont quelques blagounettes qui sont, ma foi, assez inoffensives. Et voilà, et c'est tout. Et après, les gens, ils peuvent faire des débats dessus s'ils ont envie, s'ils ont le temps. Mais c'est pas du tout. Moi, je me sens même pas provocateur, tu vois. Des interviews parfois où les gens me disent ouais mais tu provoques etc, j'ai même pas l'impression de provoquer moi, je donne mon avis. Ouais, donc oui évidemment on donne notre opinion.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le paysage médiatique actuel, il n'y a pas beaucoup d'espace de parole de gauche comme La Dernière.
Ouais, alors ça c'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière. Je trouve ça assez marrant qu'on nous considère comme une émission de gauche, mais je vois pourquoi. Je suis pas complètement neuneux, mais oui, mais pour moi elle l'est pas, parce que pour moi on est juste une émission qui essaie de décrire la réalité. Et les gens qui nous disent ça, qui sont souvent des gens de droite, moi je leur demande, mais avec quoi vous n'êtes pas d'accord, par exemple ? On a eu 6 invités, là, c'était la 6e. Est-ce qu'ils ont dit des trucs faux ? Est-ce qu'ils ont dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ? Donc, ça se trouve, vous n'êtes pas tant de droite que ça. Quand Julia Gagé, elle dit, c'est anormal que très peu de milliardaires possèdent tous les médias, qui peut être en désaccord avec ça ? Donc ça passe pour une parole de gauche, hein. C'est pour ça que j'ai bien conscience qu'on nous dit « vous êtes une émission de gauche ». Mais pour moi, elle décrit juste la réalité. Elle donne son avis sur la réalité en disant que c'est pas normal. Mais est-ce que la majorité de la population française, elle pense pas la même chose ? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème à ce niveau-là ? C'est plus ça qui m'intéresse. Hein. C'est vraiment des gens qui... Et même on a eu Guylaine David, qui est une syndicaliste, donc là, pour le coup, qui a une parole politique assumée. C'est son syndicat, etc. Moi, je mets au défi quiconque de me dire ce qu'elle a dit de faux dans l'émission. Alors que c'est news, on peut fact-checker. Si tu n'as pas peur du burn-out, on peut fact-checker une journée de CNews. Ils disent n'importe quoi. Donc ça fait la différence pour moi, ça.
Justement, je trouve que le parallèle avec CNews ou avec une émission comme Touche pas à mon poste peut être assez intéressant. TPMP qui a un peu lancé le concept d'infotainment en France.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on pourrait voir La Dernière comme une espèce d'anti-TPMP. Où on reprend des éléments de l'infotainment,
ouais.
Le fait de se marrer, d'interroger des experts sur l'actualité, mais à l'inverse de TPMP, on est plus dans la bienveillance que la médisance ou la polémique, et on s'appuie sur une parole scientifique ou sourcée.
Moi je ne l'ai pas imaginé comme ça, mais peut-être ça peut être ça, ouais, par défaut on va dire. Moi je n'ai pas essayé de faire un anti quelque chose. Moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que le sérieux, ça ne s'opposait pas à la blague. C'est pas ça l'opposition qu'il y a. On peut très bien apprendre des choses en se marrant. Je voulais prouver qu'on peut faire une émission où à la fin on est moins con et où à la fois on aura bien rigolé. Donc ouais, on a essayé de faire ça. Oui, non, pour moi c'est pas de l'infotainment dans le sens où on n'a pas de journaliste dans l'émission, donc c'est même pas de l'information. C'est plus, comme je disais tout à l'heure, de l'éducation populaire pour moi. Moi c'est vraiment l'émission que j'aurais aimé écouter si j'étais pas dedans. C'est sûr que je l'écouterais. Je pense qu'il y avait un manque de ça quand même. Enfin, d'ailleurs, je me dis, si moi, tu vois, je suis pas unique en mon genre. Donc si moi, j'avais envie d'une mission comme ça, je me dis, possiblement, il y a d'autres personnes qui avaient envie d'une mission comme ça. Donc ouais, ça m'a bien plu d'avoir l'occasion de le faire.
Ce qui est frappant à chaque fois avec ces experts, c'est qu'ils se marrent avec vous.
Ah oui, oui. Bah oui.
Alors que sur d'autres chaînes, on va plutôt les faire passer pour des gens chiants.
C'est ça. Moi, je leur dis toujours, ça sera pas chiant. Hein. Ce que tu vas dire, ça sera pas chiant. Parce que souvent, ils me disent, ah ouais, mais moi, je suis pas marrant. Alors je dis, mais non, mais moi, si je te dis de venir, c'est pas pour faire des blagues, c'est pour nous expliquer des trucs.
Un des enjeux de la dernière, c'est la liberté d'expression, qui visiblement n'était plus tout à fait possible chez France Inter, dans le service public. Ça paraît presque paradoxal qu'elle trouve refuge dans un média privé comme Nova.
Je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Ça devrait être une des prérogatives de la radio publique. Permettre à tout le monde de s'exprimer, qui plus est quand c'est de l'humour, parce qu'en plus l'humour dans le droit français, il est plutôt pas mal protégé. Il y a une jurisprudence. Bon là maintenant je suis expert parce que je viens de relire le dossier des prud'hommes qui fait presque 50 pages avec des jurisprudences à droite à gauche. Et c'est plutôt rassurant qu'ils soient bien protégés. Puis en plus nous on était, moi j'étais humoriste dans une émission d'humour. Tu vois, enfin bon ça, les gens qui ont fait semblant de pas comprendre, c'est vraiment comme je le dis, ils ont fait semblant. Donc ouais, ça m'a surpris aussi. Que je sois pas défendu par ma hiérarchie. Et puis après, j'imagine qu'ils ont eu des pressions et qu'ils, voilà, je veux pas leur trouver des excuses, mais on s'inscrit dans un champ aussi, un champ social qui fait qu'ils ont eu des pressions. C'est un champ politique. De présidente de Radio France, c'est un poste politique, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu es nommé par le CSA, le président du CSA, il est nommé par Macron, donc l'enquête n'est pas très compliquée. Tu n'as pas besoin d'une pipe comme ça. Je crois que j'ai une piste. Je ne sais plus quelle était ta question, mais telle était ma réponse.
Mais comment tu vis le fait d'aller exercer cette liberté d'expression dans le privé? Quel est ton regard là-dessus?
Moi, donc c'est Mathieu Picasse, le propriétaire de Nova, qui m'a appelé en juin, dès qu'il a su que j'étais viré, et qui m'a dit, tu viens chez moi, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et qui tu veux. J'ai dit... Attention, parce que cette phrase-là, on nous l'a beaucoup répétée. Je la connais par cœur. Et il m'a dit, non, je te promets, et tout, tu peux garder le message. Il l'a redit dans les interviews et tout. Donc bon, pour l'instant, en plus, il est hyper soutenant. Il vient aux émissions, il nous encourage et tout. Donc pour l'instant, c'est oui, on a beaucoup de chance. Après, j'insiste sur le fait que ça ne fait pas tout. Ce n'est pas la seule garantie de pouvoir dire ce que tu veux qui me fait dire oui ou non à un média. Si CNews m'avait proposé la même chose, j'aurais dit non, je ne veux pas dire que le support il est neutre. Mais je me dis, bon, c'est un perso un peu atypique, tu vois, banquier d'affaires de gauche qui vote Mélenchon, qui appelle à voter pour la gauche. Je me dis, bon, c'est déjà un peu intriguant. Radio Nova, c'est quand même une station qui existe depuis longtemps. Qui a une couleur, comme je disais tout à l'heure, radio musicale un peu d'avant-garde. Donc j'ai quand même posé la question aux copains. Je dis voilà, j'ai cette proposition, est-ce que vous en êtes? Et tout le monde me dit ouais, vas-y, go, on y va. Et on voit ce qui se passe.
The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. And I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know mofo if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe cause she fly. But I can take the heat cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye. But if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine. Cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and a
must make me seven. This hockey's gone to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, 'cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Waving like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people.
Bloodhound Gang, Fire Water Burn, 1996. Est-ce que tu as des annonces à nous partager pour les prochaines émissions de la dernière ?
Ouais, on a des invités assez stylés, là, carrément Christophe Cassou, qui est un des co-auteurs du GIEC, donc on va parler du réchauffement climatique, évidemment, mais de manière assez précise. On va faire une émission à Toulouse, ouais, parce qu'il n'y a pas de fréquence Nova à Toulouse, il n'y en a pas à Rennes non plus, voilà. Donc on va essayer de faire une petite tournée là, pour aller voir les gens où ils sont. Et donc notre invité sera Élise Costa, qui est une chroniqueuse judiciaire, donc on va parler beaucoup de justice. Parce que c'est un truc qui m'interpelle aussi. On parle beaucoup de justice dans l'actu, mais il y a plein de termes, tu vois, genre partie civile. Moi, je ne saurais même pas bien expliquer, même mise en examen, que ça veut dire exactement. Donc, elle adore faire de la vulgarisation juridique, et puis elle écrit des chroniques. Elle parcourt les cours d'assises depuis un certain temps, donc ça, je pense que ça va vraiment être une invitée passionnante. Dimanche prochain, on a Flore Judet, qui est une des porte-parole de l'Auberge des Migrants à Calais. Donc voilà, moi j'essaie d'avoir des gens du milieu associatif, des scientifiques, des universitaires, pour avoir une espèce de mix entre tout ça, parce que c'est de société civile, parce que c'est pas la même parole quand t'es porte-parole d'un syndicat par exemple, ou d'une assoce, ou quand t'es universitaire, je trouve que tu parles pas du même endroit. Il y a des choses que tu peux dire que tu pourrais pas dire si t'es universitaire et vice versa. Là on a eu Pierre Rigaud, qui est un naturaliste militant anti-chasse. Lui il est militant anti-chasse assumé. Mais c'est vraiment son obsession. Donc il enquête sur la chasse, il fait des vidéos sur internet, il est très très précis là-dessus, mais il a une parole, oui, on le présente comme un militant anti-chasse. Ça veut pas dire qu'il va dire des trucs faux, ça veut dire qu'on sait d'où il parle. Ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où les gens y parlent, et ce soit pas juste marqué comme sur BFM expert en géostratégie. Je dis attends, mais d'où, de quand, comment, par qui t'es payé. J'aime bien ce côté transparent, ouais.
De belles choses en prévision alors.
Ben ma foi, on va essayer de tenir. Hein.
Et puis une émission à Rennes, ça marcherait, je pense.
Et à Rennes, il y aura forcément, ouais, ouais, ouais.
Petit moment obligatoire aussi, est-ce que tu as d'autres projets en ce moment dont tu voudrais parler ?
Eh oui, La Révolte sans précédent. Elle est sortie vendredi. Ouais, c'est des animaux qui veulent se débarrasser des humains, quand on marre des humains, donc qui montent des actions contre les humains et qui se révoltent contre les humains. Et c'est un des projets où je me suis le plus marré ces derniers temps, vraiment avec Sandrine Deloffre, qui a fait les dessins. Et on dit que je suis scénariste et qu'elle a fait les dessins. En réalité, elle a quand même participé aussi un peu au scénario. On a réfléchi ensemble. Donc elle a beaucoup plus bossé que moi au final, c'est ça que je veux dire. Et c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse, vraiment. Et pourtant, j'en connais pas mal des personnes drôles, mais putain, on a rigolé comme jamais. Et on voudrait en faire un tome 2. Bon, dans l'idée, on voudrait faire au moins 50 tomes. Après, une comédie musicale, un film d'animation chez Pixar et un parc d'attractions. Voilà, tant qu'on n'aura pas ça, on n'arrête pas.
La BD, d'accord. D'autres choses ?
BD, puis hein, je suis en tournée avec un astrophysicien qui s'appelle Eric Lagadec. Et on fait un spectacle sur l'infini. En partant de la phrase possiblement apocryphe d'Einstein qui dit « Il y a deux infinis, l'univers et la connerie humaine ». Et encore, pour l'univers, j'en suis pas certain. Donc Eric Lagadec fait le spécialiste de l'univers et moi je fais le spécialiste de la connerie. Et on a une conférence à deux voix, mais un peu marrante et un peu où on apprend des trucs finalement. Tu vois, c'est un peu mon credo. Voilà. Puis voilà. Puis sinon, on va boire des coups dans des bars, quoi. Rennes, la base.
Merci Guillaume Meurice.
Merci Syllab. C-LAB. Mais en vrai, il n'y a pas de tiret, mais c'est sur le site internet.
Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ?
Eh ben, vive la Bretagne libre. Voilà, je suis déjà en campagne un peu.
Guillaume Meurice anime La Dernière sur Radio Nova tous les dimanches soirs de 18 à 20h. Avec la dessinatrice Sandrine Deloffre, il publiait le 11 octobre dernier la BD La Révolte sans précédent, à retrouver dans toutes les bonnes librairies.